le 7-9.
Listen anywhere.
Huawei Duba.
Wahdahu min Suria.
Tu vas aller en amour.
Sur France Inter.
Bonjour Pierre.
Bonjour Nicolas.
Pierre, vous revenez sur les polémiques autour du traité franco-allemand signé demain à Aix-la-Chapelle.
Oui, cette polémique a pris une telle ampleur, Nicolas, qu'elle justifie d'y revenir et d'en tirer au moins trois enseignements. Première leçon, la campagne des européennes de mai prochain est bel et bien lancée et elle promet d'être rude. Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan se sont emparés de ce traité et n'hésitent pas à le pourfendre en ayant recours à une post-vérité très en vogue, c'est-à-dire que la réalité importe moins que les faits alternatifs que l'on assène avec force. Ils ont décidé de faire de ce texte l'acte d'accusation du procès en trahison mondialiste d'Emmanuel Macron. Peu importe qu'il soit faux de prétendre que l'Alsace et la Lorraine seront vendues à l'Allemagne, ou que, comme l'affirment de concert les deux dirigeants souverainistes, la France s'apprêterait à partager son siège au Conseil de sécurité avec Berlin, ce n'est pas dans le texte, et la charte de l'ONU l'interdirait. L'important est le message de fond qui est distillé. Renforcer la coopération avec l'Allemagne, qui est pourtant au cœur de notre politique étrangère depuis un demi-siècle, serait un acte de trahison. C'est paradoxal alors que l'opinion publique y est largement favorable, mais l'important est de cliver.
Et pourquoi, Pierre, cette campagne a-t-elle pris une telle ampleur ?
C'est la deuxième leçon, Nicolas, car le gouvernement a été totalement pris au dépourvu par cette campagne. C'est d'autant plus surprenant qu'il y avait eu en novembre la même désinformation sur le pacte de Marrakech et qu'aucune leçon n'en a été tirée. Le traité franco-allemand n'a été mis en ligne que vendredi sur les sites officiels, après le début de la polémique donc. Or, un texte qui n'est pas disponible est la preuve, à notre époque, qu'on a quelque chose à cacher. De plus, diffuser un tel texte brut sans un minimum d'explication, qu'y a-t-il de nouveau, que se passe-t-il à l'ONU, ne permet pas de contrer des affirmations péremptoires.
Troisième leçon, Pierre.
Dans cette époque de défiance, la politique étrangère doit sortir de son ghetto. Dans de nombreux échanges avec des internautes depuis ma chronique de vendredi, j'ai été interpellé par des citoyens qui ne s'étaient jamais intéressés aux affaires européennes et qui, dans la quête actuelle de démocratie directe, s'indignaient de ne pas être consultés. Il ne suffit pas de leur répondre que ce traité ne changera pas grand-chose en réalité. Ces internautes s'étonnaient par exemple de découvrir dans le texte que la France et l'Allemagne se promettaient assistance en cas d'agression armée contre l'un ou l'autre, sans réaliser que c'est déjà le cas depuis des décennies dans le cadre de l'OTAN ou de l'Union européenne. La France a d'ailleurs activé la solidarité automatique des autres membres de l'UE lors des attentats du 13 novembre 2015, des rappels qu'il aurait été utile de faire aux lecteurs profanes de ce texte aride. Il y a suffisamment de raisons de s'indigner dans notre monde pour ne pas en inventer, mais ça passe assurément par une meilleure information sur les décisions, même celles qui, dans la réalité, tiennent plus de la symbolique que d'un saut qualitatif.
Merci Pierre Aski.